le terme artiste, pour moi, est toujours, enfin, c'est très difficile de le prononcer. Qu'est-ce que c'est d'être un artiste ou qu'est-ce que c'est d'être artiste? Parce que pour moi, un artiste, ça relève de la pensée, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le monde, qui a une vision du monde. Donc il y a une sorte de puissance, c'est tout un monde, c'est une œuvre, c'est colossal. Être pour moi un artiste, c'est ça. Ça va avec un cheminement, une œuvre qui s'accomplit heure par heure, tous les jours, d'année en année, et puis ça grossit. Et ensuite, je distingue aussi avec être artiste dans un sens plus général, ou des êtres qui ont une sensibilité, je pense quand même, je vais le dire, oui, des émotions assez intenses, sans dire, ils perçoivent le réel peut-être, ou la réalité du monde d'une manière plus sensible, tout bêtement.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice?
Frédérique Nalbandian est une sculptrice de la matière. Elle utilise le plâtre et le savon, car le blanc est pour elle fondamental. Il ne dit rien et enlève du poids à la sculpture. Il s'apparente au silence, à la disparition, à l'impalpable et même à l'infini. Rose fraîche enterrée dans le plâtre ou rose fanée réalisée en savon. Ordonnance de colonnes cannelées, torses ou faites de cylindres superposés, voire de têtes de madone, oreilles, cerveau, se retrouve dans l'univers de la plasticienne assemblée et parfois associée à de l'eau. Dans ce cas, elles deviennent des œuvres évolutives qui vont subir transformation et disparition à long terme. La matière est à la fois solide, liquide, effervescente qu'est le savon, coule, se craquelle ou s'érige et s'apparente au marbre et à son intemporalité, ou bien au contact de l'eau se dissipe et se dégrade. Je vous propose donc de l'écouter vous présenter son travail. Justement, nous sommes dans ton atelier.
Oui.
Donc ça, c'est le lieu du travail. Il y a énormément de choses, c'est foisonnant. Et on y voit surtout le médium que tu utilises plus particulièrement, dont ça m'intéresserait beaucoup que tu nous parles, et qui est le savon. Et donc c'est un médium qui n'est pas courant. Et ça serait intéressant que tu nous expliques pourquoi tu l'as choisi et ensuite comment fonctionne ton processus de travail. Comment, à partir du moment où tu as commencé à utiliser le savon, qu'est-ce que tu en as fait et comment ça marche?
Alors, le savon est né très très tôt dans ma pratique. J'ai été formée à la Villa Arson. Donc, dès la première année, j'ai travaillé beaucoup avec le. Enfin, je continue d'ailleurs à travailler avec le plâtre. Pourquoi le plâtre? Parce qu'à l'époque, c'était la mémoire, la trace et le temps qui étaient vraiment les thématiques qui m'intéressaient. Il y avait aussi la blancheur du matériau. Je me souviens, donc j'avais un travail en peinture et en sculpture à l'époque. Je chronométrais aussi les coulures que je faisais en peinture et j'inscrivais le temps. Enfin, je dis ça parce que maintenant, il y a mes pièces évolutives avec le savon. Et en troisième année, je cherchais une autre matière. Et je me suis dit, pourquoi pas le savon? Donc il est né comme ça. Et ce qui m'intéressait spécialement, c'était de conserver ce rapport direct au matériau, à la matière, en sculpture. Et j'ai abordé vraiment donc, toute la sculpture avec cette présence voilà, de substance, en fait. Donc la substance, elle est liquide, solide, elle a différents états. Et surtout le savon, qui va même jusqu'à faire de la mousse et des bulles, que j'utilise d'ailleurs dans les dessins. En fait, le savon est extrêmement résistant. Il se dissout à l'eau, effectivement, mais s'il n'y a pas de frottement, il vieillit. C'est une matière qui vieillit de manière très, très belle. Donc voilà, le savon est né comme ça. Et puis après, plus tard, j'ai fait une analyse. Et là, j'ai compris, pour des raisons personnelles, ce qui m'a un peu rassurée, parce qu'à l'époque, à la Villarsan, c'était un peu... Voilà, c'était un peu marginal et même moi, ça a été un parcours pas toujours facile. Voilà.
Et justement, pour revenir à la Villa Arson, donc c'est l'école des beaux-arts de Nice. Et donc comment s'est passé ton cursus? Est-ce que tu as senti que tu étais bien accueilli parmi les autres étudiants et le corps professoral, est-ce que vous étiez beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y avait des difficultés à être artiste, femme, étudiante à l'époque?
Alors, il y avait pas mal d'étudiantes femmes, oui.
C'était en quelle période?
C'était dans les années, j'étais diplômée en 96, donc 90-96, à l'époque il y avait encore l'année de la préparation. Et oui, non, on était bien suivis par l'ensemble des professeurs, hein, bien sûr.
Dans et alors, comment ton médium du savon a été accueilli?
Bon, alors là, ça a été... je pense que j'ai une démarche comme qui était très, on va dire, assez personnelle, en fait. Pas spécialement conceptuelle, la Villarsan, donc il fallait... peut-être faire des opérations artistiques, peut-être que ça ne convenait pas, ou alors cette matière qui était nouvelle, je l'ai vécue comme quelque chose de, enfin comme une position quand même assez marginale.
Mm-hmm. Et où est-ce que tu te fournissais en savon et est-ce que tu continues la même filière? C'est pas dans les magasins classiques pour étudiants des beaux-arts.
Alors les premières pièces, je suis allée dans les supermarchés acheter du savon. Évidemment, petit à petit, je me suis informée. Et là, depuis 10 ans, je travaille avec la savonnerie du fer à cheval à Marseille. Donc c'est le véritable savon de Marseille, qui sont d'ailleurs partenaires sur certaines expositions. Et je vais à la savonnerie, on coule sur place, ou alors je fais des coffrages, je les sculpte ici, enfin tout dépend les pièces.
D'ailleurs, dans ton atelier, il y a une petite odeur de savon qui est très nette, puisque c'est la base de ton matériau. Et si on revient sur l'origine de ton envie d'être artiste, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était par ton environnement familial ou est-ce que tu as eu une révélation qui a fait que tu as eu envie de faire l'école de la Villa?
C'est quelque chose à laquelle j'ai pas mal réfléchi, parce que comme je venais d'un milieu sportif, c'est-à-dire pendant 18 ans de ma vie, j'ai passé 18 ans à consacrer, à tout tourner autour de cette activité sportive qui était le tennis à l'époque. Donc j'ai eu un niveau de compétition assez important, enfin j'étais montée Roland-Garros, machin. Mais en parallèle, très tôt et très jeune, j'ai des souvenirs très précis dans ma chambre, même à 4 ans, 5 ans, il y a toujours eu la musique, la présence de la musique. Et je pense que ça m'a vraiment, ça m'a ouvert sur un monde, évidemment le monde d'être seul avec soi-même, de ressentir des émotions, de composer, de chercher, parce que je cherchais les mélodies sur une guitare électrique, après j'ai eu un orgue comme on a tous, enfin enfant, mais moi j'adorais ça. Sauf que j'ai jamais eu l'idée d'apprendre du piano, bien que je l'apprends maintenant, faute du tennis. Et donc... Tout cet engagement artistique, il est venu bien plus tard et ça a été un changement de voie, mais complet. Quoi.
Mais quand même suffisamment tôt pour pouvoir.
Mais suffisamment tôt, et ça grâce à une amie, parce que j'ignorais l'existence de la Villarsan, qui m'a dit: mais tu veux pas t'inscrire à la Villarsan en année de préparation? Je dis: ben oui, alors je vais vite, hein, mais bon, en parallèle, j'avais quand même. Parce que je suis partie un an aux États-Unis à l'année du bac, et là j'ai pris mes premiers cours de dessin, donc ça me titillait, je me souviens à la maison, je faisais souvent des dessins. Et sans prétendre à ça, parce qu'il y avait toujours le tennis au milieu. Je suis partie aux États-Unis, là, c'était déjà le premier départ, je pense. Et j'ai pu prendre mes cours dessin, je suis rentrée, j'ai continué à Monaco à l'école des arts décoratifs de l'époque. Et ensuite, fac de lettres, arts plastiques, enfin donc ça me... Voilà, ça a commencé à... Je m'intéressais à la photo, donc... Mais prétendre à devenir artiste... je m'en sentais déjà pas capable du tout. Ensuite, je restaurais les tapisseries aussi à l'époque, d'Aubusson, les tapisseries anciennes.
Parce que c'est ton père qui en était expert.
C'est mon père, oui, qui était, voilà. Il y a 5 générations dans les tapis et tapisseries. Ah oui, je me souviens d'un truc très précis. Je voulais être archéologue ou vulcanologue, ou paléontologue. Et puis après, je me dis, mais bon, ça, il faut être bon en maths, je ne serais pas bon, ça ne pourra pas le faire. Je m'étais dit, il y avait cette idée d'avoir un métier sans solution. Mais ça, j'étais jeune, hein, j'avais cette réflexion en tête. Alors, ben voilà, je crois que j'ai trouvé.
Ah oui.
Un métier sans solution. Bon, voilà ce que je m'étais dit.
Tu parlais tout à l'heure que tu avais fait une analyse pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Mmh. Et donc, est-ce que tu penses que la partie de l'intime, qui est la démarche de très très nombreux artistes au cours du XXe siècle, et notamment beaucoup les femmes, c'est quelque chose qui a été quelque chose que tu as introduit dans ton travail, ou au contraire tu l'as évacué?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ce qui m'a tiré, enfin, c'était plutôt ma vision de l'homme, quoi, enfin, de manière générale.
De l'humain
et le temps. Bon, ça, c'est les deux axes, enfin, un peu gênés, très, 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 très généraux. Et, mais la notion de l'intime, non, pas du tout, bien que, et en plus, paradoxalement, le savon, on ne peut pas se choisir mieux comme...
Oui.
Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça, c'est, je pense aussi, à la Villars-Son, c'était un truc qui n'était pas encore bien, bien clair, justement. Parce que du fait que j'utilisais le savon, étant une femme, on mettait tout de suite dans le registre, il y avait une artiste américaine alors, y en avait, qui faisait des sculptures en chocolat, et elle avait aussi fait des sculptures en savon. Mais c'était plus dans un propos féministe. Moi, ça m'a jamais...
Pas du tout. Tout.
Non, c'est pas du tout ça.
Et alors, par rapport à une autre réception de ton travail. Donc, je sais que tu as déjà dit que quand les gens découvrent ton travail pour la première fois, ça n'est pas du tout la question de savoir si c'est le travail d'une femme ou d'un homme qui les intéresse, mais c'est en revanche en quoi c'est fait.
Oui.
Et une fois qu'ils savent, ils s'interrogent sur, sur ce médium.
Oui.
La question, c'est justement comme toi, tu travailles sur le temps. La plupart du temps, le public, et je pense, j'imagine les collectionneurs en particulier, s'interrogent à savoir si l'œuvre va durer.
Oui.
Si elle ne va pas disparaître, fondre.
Donc avec les années, les collectionneurs ont compris, enfin ceux qui, les nouveaux, donc ça va, quoi. Mais le public, effectivement, déjà est surpris de voir une artiste qui sculpte le savon, enfin qui travaille comme je travaille, parce qu'il y a des pièces aussi évolutives qui travaillent avec l'eau, qui se transforment pendant le temps de l'exposition. Et donc ça, c'est toujours une grande surprise pour eux de voir ce matériau qu'on utilise au quotidien en prenant sa douche, là d'un coup, dans un parc sculpté avec 2 tonnes de savon.
La pluie va avoir une incidence dessus et tu l'utilises justement.
Oui, je l'utilise. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de poursuivre.
Et tu l'as travaillé avec quel type d'outils alors?
Soit des outils que je me fabrique moi-même, quand les pièces sont très grandes, là, par exemple pour la dernière, des scies ou alors des grosses gouges, ou sinon le matériel pour le modelage qu'on vient bien.
Il y a une question qui revient toujours dans celle que je pose aux artistes femmes, c'est le rapport à la maternité, parce que je sais que tu as un enfant, et donc quelle place ça a eu dans ta carrière? Est-ce que ça t'a freiné? Est-ce que ça t'a gêné? Qu'est-ce qui a pu intervenir?
Oui. Alors, effectivement... ça a été une grande surprise d'avoir un enfant. Parce qu'à l'époque, je m'étais mariée avec un artiste. Et donc, quand Charles est arrivé, ça a été pour moi un grand bouleversement, mais qui a été très court. J'avais la trouille d'avoir un enfant. C'est une véritable responsabilité. Et donc, à l'époque, je ne me sentais pas de prendre cette responsabilité-là, surtout dans le monde dans lequel on vit, et puis encore plus maintenant, je veux dire. Donc, moi, je me consacrais à ma carrière artistique, à la voie que j'avais choisie, ça, c'était important pour moi. Et Charles est arrivé, mais maintenant, évidemment, j'ai une banalité extrême. La plus belle chose de ma vie, c'est évident, quoi. Il n'y a pas d'élément. Et donc, après, ben, on s'adapte, hein. Évidemment que ça change un peu la donne, parce que ça implique des contraintes d'organisation. Quand il était plus petit, je l'emmenais à l'atelier. Mais évidemment, ben, on fait avec, quoi. Enfin, c'est pas... Faut y arriver.
Dirais-tu que actuellement dans l'art contemporain, tu disais tout à l'heure que déjà à la Villa Arson il y avait beaucoup de femmes, et maintenant on en voit de plus en plus des artistes femmes dans les galeries, dans les musées, enfin en tout cas il y a une recrudescence d'intérêt pour elles. Est-ce que tu dirais que toi, dans le cheminement de ton parcours, tu as eu une certaine confiance en toi tout en étant femme, ou est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une certaine conscience qui se fasse pour finalement réussir à garder ton sillon droit et poursuivre ?
Non, il a fallu que je... Non, que je reste, j'ai essayé d'expliquer un peu avant, enfin, ça a été une entreprise pas facile, dans le sens, toujours cette matière un peu ambiguë, enfin, qui est difficile à défendre, qui... Les gens m'ont découragée aussi après. Hein. Ah oui, j'avais rencontré une galerie, à l'époque il y avait Injonction, qui s'était intéressée en train, était venue à l'atelier, une galerie à Bruxelles. Bon, enfin bref. Il m'avait dit, mais avec la galerie, arrête tout de suite, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Mais une galerie qui avait pignon sur rue, pas une petite galerie, qui avait 40 ans de métier, donc lui. Ensuite un autre aussi, mais c'est aussi une impasse. Enfin non, un autre fait du bronze, enfin bon, voilà.
Donc finalement, les difficultés que tu as
rencontrées... Que disait le masculin, ceci.
Voilà, c'est ça. Les difficultés que tu as rencontrées dans ce milieu-là, c'était plus particulièrement en lien avec ce matériau, ce choix particulier, et en effet des hommes qui essayent de te décourager.
Oui.
Est-ce que tu as eu des soutiens aussi?
Oui, alors bien sûr. Bon, très tôt à la Villa Arson, j'ai un des professeurs qui a écrit aussi, que tu connais peut-être de nom, Joseph Mouton, qui... nous enseignait l'esthétique, donc lui, il était présent, il soutenait. Et puis après, en termes d'exposition, il y a eu Isabelle Bourgeois qui m'a consacré une première exposition, qui m'a contactée parce que j'utilisais cette matière, ça c'était en 99. Et ensuite, j'ai eu l'aide, grâce à l'aide à la première exposition, la Galerie Soardi à l'époque, en 2003. Et puis, petit à petit, les expositions... augmenter.
C'est plutôt les femmes qui t'ont soutenue, parce que tu parlais de femmes galeristes, et là tu es avec une galeriste aussi, qui est Eva Vautier.
Avant Eva Vautier, j'étais avec la galerie Depardieu, donc Christian était...
Non,
j'ai pas l'impression que c'était plus ou moins un homme, des hommes aussi m'ont soutenue. Oui.
Et donc, tu as été soutenue, mais est-ce que tu as senti à différents moments des creux dans ta carrière ?
Alors, ça, non, jamais.
Une vraie progression, tranquille.
Ouais.
Et donc, alors, les idées te viennent comment ? Donc, on a compris que la base, c'était le savon, mais qu'est-ce que tu en fais de ce savon ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les œuvres qui sont autour de nous ?
Alors, les idées. Les idées naissent au sein de l'atelier, bien évidemment. Alors, ça peut naître d'une matière, enfin, à un moment donné où je fais un geste, parfois ça peut m'entraîner, ou alors une réaction de la matière qui me fait... par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un truc complètement idiot. je suis en train de sculpter un petit cerveau en savon, et la pièce rose que tu vois là-bas en dessous, c'est embryonnaire, il n'y a rien qui est fait, tu vois, sur le socle, pardon. Elle est destinée aussi pour un futur cerveau. Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de cerveaux, soit en dessin et aussi en sculpture. Et en pièces évolutives, pas évolutives. Pour les petites pièces, elles sont... Bon. Et donc, c'est la série dans cette série-là. Et je me disais, je vais le mettre là, enfin, je vais continuer. Et là, d'un coup, je vois l'autre. Et puis, je dis, tiens, je vais le mettre en dessous parce que ça ne me plaît pas comme c'est mis là maintenant. Et là, ben, l'idée, je me suis dit, mais pourquoi je ne mets pas deux cerveaux l'un sur l'autre? Enfin, voilà. Bon, voilà, c'est-à-dire, il y a des idées qui naissent comme ça, par la manipulation voilà, d'une
c'est
forme.
C'est l'esprit d'escalier aussi,
oui.
C'est parfois la sérendipité.
C'est ça, c'est, oui. C'est ouais, ouais.
Le hasard, la surprise, c'est ça. L'accident, parfois.
Il y a l'accident, ensuite, il y a pas mal d'analogies aussi.
Oui.
Pour moi, le savon, c'est vraiment relié au vivant. Et donc, un jour, il y a 20 ans, plus de 20 ans, à l'époque, j'habitais dans un jardin, je me suis dit, tiens, toujours à la recherche, hein, pour augmenter le travail. Il m'est venu à l'idée, alors, je ne sais pas pourquoi, par exemple, ça, c'est impossible. Et je me suis dit, j'ai envie de plâtrer des fleurs. Donc, j'ai pris une fleur, j'ai plâtré. Et puis après, je me suis dit, mais... pourquoi plusieurs fleurs, enfin, ça serait bien peut-être que j'en choisisse une. Et du coup, donc, je suis partie sur la rose rouge plâtrée. Donc, ça fait plus de 20 ans que je plâtre les roses rouges. Donc, c'est une pièce qui a raté. Mais bon, voilà, il y en
donc
a plein
roses,
ici.
Les roses, elles restent à l'intérieur.
Celles-ci, là-bas aussi, tu vois, elles sont revêtues de feuilles d'or.
Elles sont enserrées dans le plâtre.
Dans le plâtre, oui. Mmh. Alors, parfois, je les scie en deux, parfois, elles sont entières. Bon.
Mmh. Donc, tu les fais sécher auparavant?
Non, pas du tout.
Non.
Ah non, je les enterre vivantes.
Ah, tu sens terminé.
Je les conserve pour moi. Elles sont conservées, enterrées. Oui. Et elles meurent dans le plâtre.
D'accord.
Et à l'inverse, en 2017, quand j'ai une exposition à côté de Paris, là, je me suis dit, je vais inverser le processus. Enfin, je ne vais pas l'inverser, mais comme je travaille en parallèle le plâtre et le savon, je m'étais dit, j'ai envie de sculpter maintenant les roses, de passer à la sculpture. Parce qu'avant, dans les procédés que j'utilise, c'est toujours trempé, il y a très peu de... finalement, il n'y a pas beaucoup de sculptures en termes de... Je me suis dit, j'ai bien envie de... Dans la série des colonnes, parce que ça, c'est le deuxième axe que j'ai aussi,
voilà.
De colonnes par rapport à la verticalité, la chute, enfin, tenir debout. Et donc, je me suis dit, je vais sculpter des roses dans une colonne. Et là, pour le coup, je les sculpte fanées, parce que je les enterre, enfin, je les plate vivantes, mais je les sculpte fanées.
Donc il y a les roses, il y a les colonnes.
Il y a les oreilles aussi. Et l'oreille à l'époque, c'était, alors c'est marrant, ma première oreille, hein, comme quoi.
En savon?
Non, en plâtre.
Ah, en plâtre.
En plâtre. Mes parents, je l'ai suspendu au mur et elle avait un... Parce que ce qui m'intéressait, c'était la forme du fœtus de l'oreille. Mmh. Et donc, j'avais fait une oreille avec un canal auditif bouché. C'est-à-dire, j'avais mis un tube plastique transparent rempli de bleu. Alors, c'est drôle parce que maintenant, j'ai mes micro-irrigations 20 ans plus tard que j'ai faites. Mais l'oreille, c'était aussi, ça renvoyait à l'entendement, au sens de la compréhension.
D'où le cerveau aussi.
D'où le cerveau et tout. Et d'où donc cette grande oreille aussi que j'ai fait en 2015 ou 2016. J'ai sculpté une oreille de 3,50 m qui s'appelle... Ce qui a été un projet avec Pascal Quignard. Enfin, qu'il est toujours... Hein. Une oreille, une pièce évolutive. Pascal fait une performance et il lit ses textes.
Oui.
Et moi, je
oui,
fais une performance autour de l'oreille que j'ai sculptée. Mais bon, là, maintenant, il est fatigué, donc il faut que je trouve un lieu pour que l'oreille puisse continuer. Donc, on a les bandes sont enregistrées.
Et tu travailles souvent aussi justement avec des gens qui font des performances ou enfin tu fais intervenir d'autres personnes. Et donc si tu peux nous parler aussi de tes travaux que tu appelles donc évolutifs.
Ah oui, oui. Ben je trouve non là, enfin je travaille pas particulièrement souvent avec d'autres. Ça m'intéresse, mais non il y a eu juste ce projet-là avec Pascal Quignard, mais c'était la musique au départ qui nous a reliés. Enfin, il y a quand même son écriture, j'oubliais en parler avec celle de Ponge aussi, Francis Ponge, évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais bon, qui a écrit notamment Le Savon, je ne sais pas si tu le connais,
oui.
Petit recueil qui est magnifique. Oui. Et où il y a deux auteurs qui ont vraiment...
Comment tu peux les exprimer, ces œuvres évolutives? Donc ce sont des œuvres qui vont changer avec le temps.
Oui, oui, oui.
C'est l'intervention de l'eau.
De l'eau. En fait, en 2006, ça a été ma première installation évolutive. Et là, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ne pas jouer carrément, enfin, voilà, de la dissolution du matériau pendant le temps de l'exposition? Ça pourrait donner à voir une pièce qui évolue dans le temps. Et parfois, les recycler aussi. C'est-à-dire qu'en fin d'exposition, la pièce peut être reconduite dans une autre exposition pour continuer. Par exemple, l'oreille qui tombe, c'est ce qui se passe. Elle était sculptée entièrement, sans craquelure, sans rien. Et là, au fil des expositions, ça fait trois fois qu'elle est exposée. y a une transformation, hein, transformation très, et surtout disparition à long terme.
Et si on revient sur les différents axes de ton travail, oui. Il y a justement les figures féminines aussi.
Ah oui, très vite. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui.
Et donc là, cette dernière pièce dont tu viens de parler, oui. C'était une commande
de Lani Ubid.
Oui.
Oui. Oui, oui. Alors c'était pas non, c'était pas une commande. C'était le parc Baudouvin, donc qui se trouve à Toulon-la-Valette, qui est un très très beau parc, place et jardin remarquable. Donc qui est géré par Isabelle Bourgeois. Donc un jour, elle m'invite à venir voir les jardins pour dans un éventuel projet futur. Et là en montant l'allée centrale, ah ben oui, tiens, j'ai pas parlé de Camille Collel. Je voulais, puis ça m'a... Enfin, je vais t'en parler maintenant, j'ai complètement oublié. Bon, je sais pas si on a le temps.
Si.
Je vais essayer d'aller vite. Elle me dit comme ça, tu sais qu'ici, il y avait un Camille Claudel. Je dis non. Elle me dit, ben si, il y avait un Camille Claudel. Moi, j'étais venue pour travailler in situ. En plus, là-bas, le jardin, il y a des bassins partout. Donc, faire un truc autour de l'eau. Et là, quand elle a prononcé le mot Camille Claudel, c'était parce que dans mon histoire personnelle, tout à l'heure, je sais pas si un acte manqué ou pas, bon, j'en ai pas parlé, mais ça a été assez déclencheur, enfin elle et d'autres, hein, mais bon.
Et... Parce que c'est une femme sculpteur ?
Non, pas c'était Camille et Rodin, et non, à l'époque, je restaurais les tapisseries. Et comme la marchandise était achetée en salle des ventes, il y avait toujours les gazelles Goudreau, voilà. Et il y avait, j'ai mémoire, à l'époque, donc j'étais encore dans le tennis, enfin, j'étais même pas à l'école, rien, quoi. Et donc, je voyais ces images, enfin, j'ai vu les sculptures de Camille Claudel et de Rodin, je dis, wow, enfin, ça m'avait transporté, enfin, j'ai dit, quelle force. Et là aussi, j'ai eu une espèce de, enfin, je vais pas dire un appel, mais...
On peut dire quand même que c'est une petite étincelle de départ.
Oui, non, ça a été une... Oui, je me suis dit, j'aimerais bien arriver à faire ça. Si jamais je pouvais arriver à faire ça.
Voilà. Et donc, pour revenir...
Quand je viens 30 ans plus tard, Isabelle qui me dit ici, avec Camille Claudel, je dis, mais... Et en fait, oui, il y a eu effectivement la dernière œuvre de Camille Claudel qui s'appelle Annie au bide blessé, et était ornée le bassin du parc.
Voilà. Donc, tu en as refait une.
Donc, j'ai fait une pièce, oui, en écho à la niobite blessée. Moi, le bras, c'est Camille, enfin, toutes ces sculptures sont très en mouvement et avec la présence des bras est très importante. Et moi, j'ai réintégré les bras par rapport à cette idée de chute, de dissolution, enfin, de ruissellement qui sont toujours verticales. J'ai voulu sculpter 5 bras qui tombent. Voilà.
Et donc, cette œuvre, elle est visible sur place.
Oui.
Et donc, justement, quelles sont tes envies ou aspirations actuellement dans ta recherche ? Parce qu'actuellement, tu as quand même aussi beaucoup de sollicitations. Donc, il y a eu Camille Claudel, sur laquelle tu as beaucoup travaillé, justement, pour cette pièce-là. Et là, tu as aussi des projets en cours.
Oui, là, actuellement, je prépare une exposition assez importante à Fougères, qui est en Ille-et-Vilaine. Donc je vais préparer, il va y avoir 5 grandes colonnes, c'est autour d'un château médiéval. Voilà, je vais faire aussi un mur poème et une autre pièce là, que je vais sculpter dans la continuité de la niobide. Et il y aura aussi, il y a une chose importante, c'est que cette exposition va me permettre de pouvoir réaliser un projet dont j'ai eu l'idée il y a quelques années, mais jamais eu les financements pour. Qui est une double sculpture, c'est-à-dire l'intérieur est composé d'une matière non éphémère et l'externe est une enveloppe en savon.
Ah.
Ouais. Et donc là, ça sera une sculpture interne en bronze à base de linge. Tu sais, j'ai tout ce travail autour des linges torses, des colonnes torses comme ça. Et donc là, la sculpture sera coulée en bronze et ensuite il y aura donc des cylindres de savon qui vont la cacher.
Est-ce que tu considères que c'est un travail plus difficile pour une femme ? Parce que c'est vrai qu'en tout cas, c'était la difficulté que rencontrait Camille Claudel en permanence. Donc, est-ce que tu continues à le penser aussi ?
D'être sculptrice ?
Oui.
Ah oui, quand même, oui. Oui, oui. Bon, ben, déjà physiquement aussi.
Oui.
En fait, c'est, Je suis fatiguée. Oui. Enfin, c'est lourd, quoi. J'ai mal partout. Là, j'ai le pouce, lui, je ne le lève plus. J'ai une tendinite. Enfin...
Donc, ça n'est pas une difficulté.
Non, non, non.
Et ça n'a pas été une difficulté que tu as rencontrée dans ta présentation, dans ton travail.
Non, 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 non.
Alors, si on continue dans les aspirations, quel serait ton désir d'exposition en ce moment ? Un rêve d'exposition.
Ouais. Ça serait de pouvoir réunir au sein d'un espace, en fait, l'ensemble de ma pratique. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours...
Présenté par petits
bouts. Oui, voilà.
Une belle rétrospective, quoi.
Oui, bon.
On va rêver ça pour toi aussi.
Après, non, il y a quelque chose aussi qui me tient, que j'aimerais bien, ça, oui. En rapport avec ce temps, puisque tout, enfin pas tout, mais il y a ce travail sur le temps qui est témoigné par le dépôt, alors à la fois dans les bacs, dans les grands bacs noirs, qui sert de réceptacle dans les installations évolutives. Là, ça par exemple, ça doit être le cinquième, ça s'appelle les précipités. Donc j'en ai toute une série. Il y en a qui sont en collection privée. Ouais. Non, ce sont des tondeaux, c'est des peintures. En fait, c'est les bacs au sol qui j'enduis de bitume.
D'accord.
Et en fait,
des peintures.
Oui, moi je fais rien, c'est le savon qui fait tout.
D'accord.
Et les dissolutions qui se mettent en place. Après, en fin d'expo, je laisse sécher. Et en général, je contrôle le débit d'eau, quoi. Et ensuite, ça devient des peintures.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un beau.
Celui-ci, c'en est un aussi là.
Oui. Et donc, en tout cas, merci beaucoup Frédéric Nalbandian. Et on va
c'est moi qui te remercie.
Peut-être une dernière œuvre qui t'aurait marqué. Tu as parlé tout à l'heure de Camille Claudel, tu parles aussi de deux poètes ou écrivains.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait aussi une œuvre qui t'avait marqué plus particulièrement?
Qui aurait déclenché ou marqué?
Peut-être.
Parce que marqué, il y en a beaucoup, beaucoup.
Oui, ça, j'en doute. Oui, on a tous un musée dans sa tête.
Mais déclenché, c'est autre chose. Mais remarqué, il y a toute la sculpture Donatello, enfin bon, la Madeleine voilà. Et sinon, oui, quand même, j'y songeais, les caprices de Goya, les cauchemars, tu sais.
Ah, c'est extraordinaire. Voilà.
Et ça, pourquoi? Pour la vision de ce que nous sommes.
Merci beaucoup.
Merci à toi beaucoup.